Carnet de campagne, bonjour, quatrième édition en région centre dans le département du Loiret. Le Loiret et la Loire, pas uniquement, pas que, comme disent les enfants, mais quand même. Or, chaque année, des journalistes, écrivains, photographes, éditeurs et professionnels de la presse touristique britannique se réunissent pour récompenser les meilleures initiatives touristiques. Il y a quelques semaines se déroulait à Londres la remise des trophées organisée par la British Guild of Travel Writers. Je fais des efforts. Et c'est la Loire à vélo qui a obtenu le trophée du meilleur projet touristique d'Europe. Le jury britannique a jugé ce circuit comme étant, je cite, le projet écotouristique le plus long et le plus ambitieux de cette dernière décennie, s'il vous plaît. Les deux régions et les six départements le long de ce réseau cyclable voient ainsi plusieurs années d'aménagement, d'organisation et de conception récompensées. Au total, les 800 km d'itinéraire auront exigé 17 années de travail et de collaboration entre régions et départements, avec un résultat plutôt concluant, 790 000 cyclistes par an sur cet itinéraire et plus de 15 millions d'euros de retombées économiques. Entre région centre et région Pays de la Loire, ce sont 430 professionnels bénéficiaires du label Accueil Vélo qui proposent leurs services. Alors même si nous n'avons pas pour habitude de clamer les splendeurs du patrimoine hexagonal, il y a assez de dépliants et d'ouvrages touristiques à ce sujet. Nous retenons que le vecteur écotouristique gagne du terrain. Le site dédié met en ligne une vidéo très alléchante du parcours. À voir, c'est www.loireavelo.fr. Non moins intéressante est l'Eurovélo 6, nom donné à l'un des 12 itinéraires européens. Celui-ci, le 6, relie les trois grands fleuves de la Loire, du Rhin et du Danube, donc relie l'océan Atlantique à la mer Noire, soit un parcours de 3600 km, il faut être courageux, qui traverse la France, la Suisse, la Bavière allemande, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie. C'est d'une autre mobilité dont il est question aujourd'hui. Elle est cinématographique et exceptionnelle. En effet, autant les cinémas itinérants sont nombreux dans les régions et les campagnes, on déplace parfois un projecteur, le matériel, on improvise une salle, autant le dispositif en région centre est inédit puisque cette fois, c'est la salle entière qui se déplace. Films, rencontres, animations culturelles autour du cinéma. Les camions transporteurs de salles proposent des services clés en main. Explication dans un court instant avec François Hardy, responsable des cinémobiles. Un jardin d'insertion par le maraîchage biologique sur une aire d'autoroute, telle est la dernière invention du Loiret défendue par le maire d'une petite commune du nord du département, Denis Thion. Il sera notre deuxième invité.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand.
François Hardy, bonjour.
Bonjour.
François, responsable des cinémobiles en région centre. C'est quelque chose d'incroyable, parce qu'on parle beaucoup de cinéma itinérant. Vous vous déplacez des salles de cinéma.
Exactement, ce sont les seules en France, puisque donc la spécificité, ce sont des salles de cinéma itinérantes, c'est-à-dire en quelque sorte des salles fixes itinérantes, puisque ce sont donc des camions semi-remorques, et puis donc avec l'aide de systèmes hydrauliques, se déplient et se transforment en une salle de cinéma de 100 places.
Quel type de programmation vous proposez ?
Alors on a une programmation en fait qui est plutôt grand public, sachant que nous avons deux circuits en fait composés de 23 communes chacun, et en fait on propose des films d'actualité en proposant des animations, et les deux circuits sont également d'ailleurs le classement à RSC.
Vous dites que c'est avant tout une salle de proximité qui vise à créer du lien social. Normalement quand on est dans son fauteuil, dans une salle obscure, et là c'est le cas, le lien social n'est pas très évident.
Oui, enfin, si, pourtant il l'est beaucoup, puisqu'en fait, tout simplement, ça permet à des personnes âgées, des personnes vraiment, même d'ailleurs, de tout milieu, de tous âges, de se retrouver dans une salle de cinéma, et puis, je sais pas, quand les gens arrivent, les gens se font la bise, ils demandent des nouvelles des voisins, etc. Vous voyez, donc c'est vraiment, en fait, à travers l'ambiance de la salle de cinéma, c'est aussi un lieu de retrouvailles et de rencontres.
Et je pensais justement, effectivement, aux séances rencontres. Alors, il y a eu l'exemple du film La Terre outragée. Là, par exemple, il y a un dispositif d'explication, de présentation du contexte.
Ouais, tout à fait. De toute façon, lors de chaque projection, avant la projection, le régisseur donc présente les films à venir. Nous organisons donc régulièrement des animations avec des intervenants. Donc là, vous évoquez la Terre outragée. D'ailleurs, on fera revenir la co-scénariste du film, par exemple, le vendredi 30 novembre dans une commune du Loiret qui est d'Ordive, proche de Montargis. Et donc, la réalisatrice viendra échanger avec le public à l'issue de la projection.
Et là, ce dispositif fait partie d'une volonté générale sur la région, qui est de la sensibilisation aux arts numériques, à l'image, au cinéma, avec ce moyen qui est assez prodigieux dont vous disposez. Mais ça correspond quand même à une mission territoriale bien précise.
Tout à fait, en fait, donc c'est la région centre. C'est vrai que les films mobiles donc permettent en fait au plus grand public d'accéder au cinéma dans des petites communes du milieu rural, hein, puisqu'on a, on en a 46 sur 5 départements, et donc on en profite pour justement pour proposer des films non seulement d'actualité, mais aussi permettant au public de découvrir notamment le jeune public.
Et vous êtes classé art et essai depuis 2 ans.
Voilà, tout à fait.
Donc ça vous permet d'élargir complètement votre programmation et de justifier, par exemple, un travail sur une mémoire, une série sur une mémoire du cinéma, ça doit être possible.
Oui, c'est possible. Après, c'est vrai que le classement RSA, disons que c'est aussi, c'est, entre guillemets, c'est tout un cheminement, en fait, parce qu'il faut arriver à fidéliser un public. Et c'est surtout l'occasion, notamment pour les plus jeunes, je pense notamment dans le cadre scolaire, de proposer des films qui sont souvent, malheureusement, moins médiatisés, moins connus. Et donc, on essaie d'avoir comme ça une programmation qui soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus exigeante, mais néanmoins grand public.
Et vous participez à des festivals aussi, François ?
Oui, tout à fait. En fait, en complément en fait de nos tournées donc en région centre, on va également dans des festivals au niveau national comme l'USAF en Ardèche. La semaine dernière, il était dans un petit festival du court métrage à Cabrières d'Avignon, proche d'Avignon. Il était aussi au festival du film italien de Villerue. Donc on a comme ça. Et puis donc prochainement, il sera donc à Vendôme du 30 novembre au 7 décembre.
Et pour un autre festival, Vendôme qui multiplie hein, les actions autour du cinéma, parce qu'il y a un excellent festival du film allemand aussi, qui est une particularité à Vendôme. C'est rare qu'on s'intéresse au cinéma d'Outre-Rhin, donc ça c'est une particularité. Et aujourd'hui, vous êtes la réunion de Centre Images et de Livre au Centre, donc deux actions culturelles.
Avec vous, tout secteur du changement.
Et de l'autre, du livre, réunis au sein de Cyclic, donc avec un nouveau site qui va être totalement opérationnel dans une semaine.
Voilà, tout à fait, il sera opérationnel donc la fin novembre. Donc il sera opérationnel pour justement le lancement du Festival du film de Vendôme que l'on organise du 30 novembre donc au 7 décembre. Et donc ça permettra justement, vous pouvez vraiment voir en ligne toutes les informations sur les différents pôles donc qui composent l'agence.
Cinémobile, un dispositif unique en France, cyclic.fr pour l'adresse qui va s'afficher à notre page Carnet de Campagne. Merci François Hardy.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci.
Denis Thion, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le maire de Courcelles et aussi vice-président du pays Beauce-Gâtinais en Pithiviers, puisque Courcelles, votre localité, est proche de Pithiviers, et vous nous aviez envoyé un courrier qui m'avait personnellement bien plu, parce que vous disiez, j'annonce la création du jardin de la voie romaine, ça vaut le coup d'en parler. Vous allez me dire, encore un jardin d'insertion. Oui, mais celui-ci n'est pas comme les autres, les collectivités locales, dont le pays Beauce-Gâtinais en Pithiviers, dont je suis vice-président. Les jardins de Cocagne, les conseils régionaux et généraux se sont alliés avec l'horrible capitaliste qu'est le groupe Vinci. Et vous ajoutez d'ailleurs tout pour la bagnole, c'est aussi tout pour l'avion, puisque Vinci serait concessionnaire de l'éventuel, s'il est réalisé, aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est très original. Alors là, on n'est pas dans la même proportion. On est dans une version beaucoup plus humaine, dont l'originalité est de proposer donc une possibilité d'insertion à des personnes via un jardin maraîcher dont les produits sont vendus en sortie d'autoroute.
Oui, oui, oui. Ben Vinci a construit cette nouvelle autoroute à 19 qui traverse le nord du Loiret. Donc un terrain qui appartient à l'État, hein, qui fait partie du domaine autoroutier, qui a été concédé pour la création d'un jardin d'insertion. Et c'est ça, nous les élus, on a été surpris au départ de voir le groupe Vinci très impliqué dans l'affaire. Mais en réalité, c'est une expérience qui nous semble intéressante, puisque de fait, Vinci, de par son implication, les collectivités territoriales, les jardins de Cocagne, puisque ce jardin est affilié au jardin de Cocagne, réussissent là maintenant depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, quelque chose qui est intéressant pour le territoire, quoi. Mmh. C'est pour ça que le syndicat de pays, on s'est impliqué dedans assez fortement.
Le seul souci serait peut-être l'implication, là, cette fois, des consommateurs, parce que quand on est en sortie d'autoroute, ce sont plutôt des personnes de passage, alors qu'ils ne vont pas fidéliser leurs achats.
Ah non. Là, pour l'instant, ce sont surtout des gens de la région. Hein. On arrive à 115 paniers par semaine, mais ce sont des gens du territoire pour les personnes qui sont adhérentes. Mais c'est sûr que le fait que ça soit situé à la sortie d'une autoroute près de l'aire du Loiret où il y a un restaurant, etc., c'est aussi un endroit stratégique qui permet des débouchés d'une part pour les légumes, parce qu'il y a la perspective, c'est en cours de négociation, de commercialiser les légumes à l'intérieur des menus du resto de l'aire d'autoroute. Et puis, c'est aussi un lieu où les salariés du jardin d'insertion pourraient, dans un second temps, aller en stage pour l'entretien d'espaces verts, etc. Donc, il y a une collaboration, là, entre le jardin et puis cette activité économique importante qu'est l'aire d'autoroute. Mmh. Il y a aujourd'hui une quinzaine de salariés en insertion, avec 5 permanents qui les encadrent. Certains viennent à mobylette ou à vélo. Bon, d'autres s'arrangent aussi en covoiturage, mais ce sont des gens qui viennent des villages proches. Hein. Ils viennent pas de l'autre bout du département. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est que bon, il y a une grande entreprise qui donne des moyens humains, à savoir des conseils en formation, en simulation d'entretien d'embauche, en visite d'entreprise, bon, des conseils aussi à la structure elle-même. Ouais. Il y a un appui en matière de communication, un appui juridique pour monter les dossiers. Bon, ça, c'est l'application de l'entreprise. Les collectivités territoriales, elles, on trouve intéressante que ben, des publics en exclusion puissent avoir là une possibilité d'insertion et d'accompagnement. Et puis, il y a eu aussi une implication d'une dizaine pour l'instant, mais c'est pas mal au bout de 2 ans et demi, je pense, de bénévoles, c'est-à-dire des gens qui habitent pas très loin.
Dont vous faites partie, monsieur le maire.
Dont je fais partie, en disant, bon, ben, c'est un projet qui a du sens. Alors, certains viennent plus sur le volet culture de la terre, légumes. D'autres viennent, comme moi, aider en matière de communication, en recherche de débouchés, c'est-à-dire on essaie sur le territoire d'avoir plusieurs lieux de distribution de paniers. On voudrait, et ça j'ai participé avec la directrice du jardin, mobiliser aussi les entreprises locales en disant, vous avez là des gens qui font un effort d'insertion, qui pendant 2 ans... remettent le pied à l'étrier, apprennent à travailler ensemble, etc. N'oubliez pas que ces gens-là peuvent être aussi utiles une fois qu'ils ont quitté cette expérience du jardin dans votre entreprise.
Bien sûr.
Donc on a rencontré par exemple des entrepreneurs du Petit Vrai pour leur expliquer le travail et l'origine socio-professionnelle des personnes qui sont en insertion.
Voilà, chers amis, vous avez un bel exemple d'un maire, vice-président de pays et bénévole du jardin de la Voie romaine, avec un lien qui va apparaître à notre page carnet de campagne sur franceinter.fr. Denis Thion, merci beaucoup.
Merci à vous.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Il existe une maison unique en Europe, et si je vous en parle, c'est qu'elle est construite dans le Loiret, elle est en paille. Alors, rien d'exceptionnel, étant donné que la technique de construction écologique fait de plus en plus d'adeptes. Son originalité tient à sa date de construction, 1921, la plus ancienne répertoriée donc en Europe. Cette petite bâtisse, dont les façades couvertes de lierre laissent peu imaginer les matériaux de construction utilisés, est tellement bien isolée qu'elle répond, depuis sa construction 1921, je la rappelle, elle répond aux normes actuelles de la réglementation thermique. Le propriétaire souhaite la céder à des personnes qui pourraient perpétuer l'esprit de cette maison, qui fait 80 mètres carrés au sol, mais sur 2 étages. Cette bâtisse érigée à Montargis est l'œuvre de l'ingénieur Feuillette, non écologique, qui fut en son temps un visionnaire complet, construite sur un terrain de 1500 mètres carrés et prolongée d'un hangar conçu selon la même technique. Ce patrimoine historique intéresse énormément le réseau français de la construction en paille, et ce, à plus d'un titre. D'abord, la maison prouve la durabilité d'une construction paille, et un bel outil de communication qui s'offre là pour obtenir la confiance des assureurs et prescripteurs. Elle peut permettre aussi de mieux comprendre le fonctionnement thermique et aussi sa longévité. Pour cause, elle est l'exemple nécessaire pour édicter des règles professionnelles d'exécution. C'est l'association des Compaillons que l'on salue, promoteur de la construction paille en France. C'est un organisme leader dans l'Hexagone avec 600 membres qui a signé un compromis de vente. Sauf que pour parvenir à ses fins, le réseau lance un appel aux dons afin de boucler le budget d'achat qui s'élève tout de même à 250 000 euros. Le dossier avec l'historique de cette maison est à lire sur le lien aussi, comme toujours, comme les autres qui s'affichent à notre page, c'est Maison Feuillette, en un seul mot, point compagnon avec un S, point EU. Et l'historique d'ailleurs de cette maison est tout aussi passionnant. J'ai le temps de vous parler des cafés Bonne Nouvelle. Vous avez annoncé la naissance de ces cafés. Alors il y a ceux qui dénoncent, il y a ceux qui annoncent et ceux qui proposent. Alors les cafés Bonne Nouvelle, voilà, c'est une invention. Et le premier dans le genre, né l'année dernière, était à la Maison des Associations de Chambéry. Et ce café Bonne Nouvelle consiste donc à échanger sur de nouvelles pratiques et de bonnes pratiques avec ses adhérents autour d'un esprit café. Et puis aussi, dans la deuxième partie, d'ouvrir une thématique. Le prochain rendez-vous proposé par le café Bonne Nouvelle de Chambéry, le mardi 27 novembre, dans un petit peu moins d'une semaine, à la Maison des Associations qui est rue François de Sales à Chambéry, porte sur la santé. Et la santé, ça va avec des femmes alternatives. Pour aller bien, vous pouvez aller sur le site, le blog plutôt, du café. C'est Café Bonne Nouvelle, les bonnes nouvelles au pluriel, en un seul mot, .hautefort.com, voilà qui est dit. Et puis avis aux amateurs qui veulent ouvrir aussi des cafés Bonne Nouvelle. Et nous serons là, pour relayer les bonnes informations aussi, évidemment. Avant de nous quitter Paris dans les étapes qui comptent pour les cafetages, ensuite, on attend des nouvelles des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la Haute-Garonne. Merci beaucoup. Tout de suite à Chambon-la-Forêt, Nicolas Stoufflet, le jeu des 1 000 euros.